Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, joie, félicité, incroyable, parce qu'en fait, et je dis événement même, je dirais même, puisque je suis avec mon ami Rafik Djoumi. Salut
ouais,
Rafik.
J'ai déjà mal. Salut Steph.
Salut Rafik. Pour parler de Roland Emmerich, parce qu'on nous l'a tellement réclamé, on nous dit « Ah, Roland Emmerich, quand est-ce que vous faites un long podcast de 12 heures avec Roland Emmerich ?» Bah non, on va pas faire un podcast de 12 heures, parce que je maintiens, c'est moi le patron, et en fait, il y aura pas de podcast sur Roland Emmerich. Le seul film que je concède, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, c'est Universal Soldier, ton film préféré.
Exactement.
De Roland Emmerich.
Parce voilà. Que donc, bah, voilà, pour être fidèle à ta réputation de troll, tu choisis d'aborder Roland Emmerich exclusivement sous l'angle de la merde de sa carrière.
Merde de sa carrière, c'est le film sur lequel il est au niveau. Quoi, je pense, voilà quoi, j'ai envie de dire. Non, bon, vous aurez compris que quand même notre rédaction est divisée
sur cette question-là, très divisée sur la question de la Exactement. Carrière grandiose du Roland Emmerich des années 90.
Voilà, et alors que bon, voilà, donc pour être clair, pour être limpide, moi je déteste la carrière de Roland Emmerich des années 90 et puis même celle d'après. Et toi, en fait, t'adores, tu considères que c'est le Spielberg des années 90, c'est le Kubrick.
Arnaud nous avait fait tout un speech très intéressant sur la notion de plaisir coupable lors d'un podcast, mais effectivement, ça fait partie de mes plaisirs coupables. Je me targue d'avoir eu en laserdisc et en DVD l'essentiel de la carrière américaine de Roland Emmerich.
Tu sais qu'il y a des gens qui font des montages sur internet et ils vont le prendre, tu vois.
Exactement. J'ai complété mon Roland Emmerich avant d'avoir pu compléter Clint Eastwood par exemple au niveau de ma collection. Et d'ailleurs pour l'anecdote, je te le dis, mais on m'avait invité à faire la masterclass de Roland Emmerich pour le film Anonymous. Et avant la masterclass.
Son meilleur film.
Avant la masterclass.
Enfin, je dis ça, je l'ai même pas vu, en fait.
Avant la masterclass, ils m'avaient dit, mais pourquoi ils vous ont choisi, vous? Et ils m'ont dit, monsieur, j'ai répondu, monsieur Emmerich, vous êtes en France, vous vous doutez bien que je suis la seule personne qui est tous vos films chez moi.
Ah ouais.
Et ça l'a fait sourire. Ah ouais. Parce qu'il sait très bien comment la critique le considère. Ah ouais. Comment?
Et donc, il y a d'autres personnes qui ont tous les films, hein.
Des journalistes de la presse cinéma qui ont tous les Roland Emmerich chez eux.
J'en connais un ou deux, je pense, à mon avis, tu vois. Enfin bref, vas-y.
Non, mais au début de ma DVD, de ma Blu-ray Tech, j'avais genre 7 Roland Emmerich alors que j'avais genre 4 Spielberg. Enfin, genre, c'est dire l'importance du bonhomme, quoi.
C'est un vrai plaisir coupable. C'est dire comment tu t'enfonces, Rafik, sur tout ça, quoi.
C'est un vrai plaisir. C'est des films, je suis prêt à reconnaître tout ce qu'on dit habituellement de ces films-là en disant ouais, et je m'en fous, ça me fait plaisir.
Donc, Universal Soldier.
Alors là, sur celui-là, par contre, oui, je m'en fous pas, parce que Universal Soldier, c'est quand même un gros étron. Non, en fait, c'est un... Bah, alors, on dit ce que c'est.
Alors, gros, pitch oui. Déjà le film, parce que c'est important de pitcher un film comme ça, c'est compliqué. Okay. Comme...
C'est deux mecs qui se foutent sur la gueule. Non, en gros...
Van Damme et Dolph Lundgren.
Non, c'est un super pitch. C'est un pitch qu'on... Écoute, moi, je reviens à l'époque, je lis le pitch d'Universal Soldier, mon premier réflexe, c'est « je veux voir ce film ». On a grandi avec le comic book. À cette époque-là, on commence à découvrir l'animation japonaise bien testostéronée. Et là, en gros, le pitch du film, c'est donc deux anciens soldats morts au Vietnam qui ont été récupérés par l'armée, traficotés, et transformé en super soldiers, on va dire, programmable et commandable à distance, sauf que lors d'une mission où ils doivent abattre un groupe terroriste, il se passe un événement qui fait que l'un des deux soldats se réveille, en fait, et il a des flashs de un peu avant sa mort, et se rebelle contre l'autre soldat, parce qu'en fait c'est son ancien sergent, Dolph Lundgren, pardon, Jean-Claude Van Damme est un ancien soldat du Vietnam, et Dolph Lundgren et son ancien sergent qui était un psychopathe.
Luc Devereaux Et Andrew Scott, voilà. S'il te plaît.
Qui était un psychopathe qui avait buté sous ses yeux des innocents et ils se sont butés tous les deux, en fait, à la suite de cette tragique affaire. Et donc, il se réveille, il reconnaît que l'autre est son ennemi et il décide de protéger une journaliste qui s'est infiltrée pour essayer de comprendre un peu de quoi était fait ce programme mystérieux. Comme si elle était la femme innocente qu'il n'a pas su protéger des années auparavant. Ouais. Voilà, en gros pour le pitch. Et donc ça se transforme assez vite en course-poursuite de motel en motel où le super soldat est poursuivi par tous ses collègues super soldats. Ouais. Mais donc le concept de super soldier, c'est-à-dire de mecs qui ont des super pouvoirs d'une certaine façon, en train de défoncer la moitié de la route 66, moi c'est ça que je voulais voir effectivement.
Si tu veux. Mais ça, alors c'est un. Alors il faut peut-être revenir un petit peu sur parce qu'on va parler un peu de Roland Emmerich, je pense. On va parler un petit peu de Van Damme dans cette époque-là. On va Dolph Lundgren aussi potentiellement, mais on a déjà fait quelques podcasts sur Dolph Lundgren. Mais peut-être aussi
de la Carol
Co. La Carol Co, ce que ça signifie un film comme ça pour la Carol Co. C'est-à-dire qu'en gros, à cette époque-là, Roland Emmerich avait fait un tout petit film, je crois, c'est américain, Moon 44.
Moon 44, sa première vraie prod américaine. Il y avait déjà les capitaux sur Joey avant, mais Moon 44, c'est vraiment sa tentative de rentrer dans le jeu.
Donc, réalisateur allemand extrêmement fin, qui pompe Spielberg à tout craint, quoi, et qui se retrouvait donc remarqué à Hollywood, qui doit faire un énorme film pour la Carol Co, parce que Garoko prenait des très gros risques à cette époque-là, qui s'appelait Isobar. Voilà, c'est un film. Alors, pour pitcher Isobar rapidement, c'est
préciser pour lui rendre justice que Moon 44, c'est pas un bon film. Hein, mais par contre, je pense qu'il faisait plaisir aux producteurs parce que c'est un mec qui mettait de l'argent à l'écran. Ça veut dire que c'est un film qui avait été fait avec 3 francs 6 sous dans une vaine tentative de pomper Aliens le retour. Mais par moment, ça faisait illusion. On avait par moment l'impression qu'on était vraiment dans l'espace.
On peut le dire aussi avec Universal Soldier d'une certaine manière, parce que c'est un petit budget. Enfin, en tout cas,
c'est beaucoup de cash misère, mais voilà. Ça,
à la mesure de ce que c'est censé être le film, quoi. Et en fait, donc. Roland Emmerich devait tourner Isobar, il a travaillé dessus pendant un an, pour la Carol Co.
Beaucoup de dessins de pré-prod et tout ça.
Voilà, c'était un film avec Stallone et Kim Basinger, période donc vraiment début des années 90, donc à l'époque où c'était deux énormes stars, quoi.
Qui se passait dans un train à super grande vitesse, voilà.
Voilà, dans lequel il y avait une espèce de créature génétique, une espèce de monstre plante, un truc comme ça, quoi, un truc. Et en fait, c'est un film qui a beaucoup fait. Je me demande d'ailleurs s'il fait pas partie. Et je crois qu'il y a un livre sur les films qui n'ont jamais été faits. Et je me demande s'il n'est pas dedans, en fait, justement. Oui. S'il n'y a pas un énorme chapitre autour de Isobar. Il faudra vérifier, quoi. Mais c'était un énorme pari pour la Carol Co. Et un pari qui, en fait, s'est planté parce qu'ils n'ont pas pu le produire. C'était un film à 90 millions.
Qu'ils avaient proposé à Ridley Scott, je crois, au départ.
Alors là, qui s'est barré. Mmh. Ça, c'est le premier point. En gros, Carol Co, faut savoir que la Carol Co, c'était un mini studio indépendant au sein des studios hollywoodiens à cette époque-là. Et en fait, qui était très apprécié par les réalisateurs parce que, en fait, ils avaient pour le coup une vraie latitude.
Parce qu'en fait,
sauf sur Isobar, en l'occurrence, apparemment.
Voilà, c'était tenu par des flambeurs, en fait. Hein, Carol Co, faut le dire.
Mario Casar et Andoula.
Mario Casar, qui s'est carrément barré en Amérique latine, enfin, avec la caisse, enfin, voilà, quoi. Des aventuriers, on va dire. Ouais. Donc, effectivement, des gars qui, contrairement à une major hollywoodienne qui est bien organisée, et donc, du coup, qui met la pression de façon régulière, c'est vrai qu'il y avait, entre guillemets, une forme de laisser-faire. Il y avait aussi le fait que, donc, ils avaient des paris, les films se faisaient rapidement aussi. Hein. Enfin, il faut rappeler que un des gros cartons de Carol Co à l'époque, c'est Terminator 2. Et c'est un film qui a été fait dans des conditions aberrantes. D'une vitesse folle. Et avec qui donc Canal Plus avait signé ce deal, raison pour laquelle d'ailleurs je crois Universal Soldier aujourd'hui est dans le catalogue Canal.
Oui, bah comme Terminator 2, comme en fait quelques films de cette époque-là. Ouais. Voilà. Mais alors le truc c'est que donc du coup Roland Emmerich ne s'entend pas avec Joel Silver. Qui lui en fait voulait utiliser, parce que Roland Emmerich, il faut savoir qu'avec Dean Devlin, hein, son comparse, on va en parler aussi, quoi, qui est scénariste, en fait ils avaient leur habitude d'écrire leur propre scénario. Et en gros, quand il a été question de retoucher Isobar, Joel Silver a fait non, on va bosser avec Steven de Souza, donc c'est mon scénariste attitré, tu vas reprendre sa version à lui, et en fait ça s'est mal passé. Du coup le film ne s'est jamais fait. comment dire, et tout ce petit monde en fait c'est un peu dispersé, c'est-à-dire Stallone est parti faire Demolition Man avec avec Joel Silver, et en gros Roland Emmerich et Dean Devlin ont récupéré un projet qui était à la base en fait un projet pour Andrew Davis. Andrew Davis qui est parti faire, donc du coup, enfin qui s'est pareil, en fait, s'est retrouvé, comment dire, parce que sa version, si j'ai bien compris, était trop chère pour Carolco. Mmh. En fait, ils lui ont dit non, on peut pas, ce qu'il lui proposait, en fait, c'était, je crois, c'était des vraies machines pour le coup, en fait, les Universal Soldiers, c'était encore autre chose, quoi. Et en fait, Roland Emmerich et Dean Devlin se sont dit, bah ça, on peut retoucher, on peut le faire, et on peut faire un plus petit film, on sait comment faire un plus petit film. Donc là, du coup, en fait, tu parlais de Terminator 2, on parlait d'Isobar qui était à 90 millions. Terminator 2 qui était à 100 millions. Là, c'est un film à 22 millions, 23 millions. Donc, ce qui est quand même un budget conséquent pour un film d'action avec Van Damme et Dolph Lundgren à cette époque-là.
De 92, ouais.
Voilà. Mais un petit budget par rapport à ce que tu es censé voir à l'écran. Mmh. Donc, du coup, parce que tu as quand même une grosse poursuite entre deux camions dans le Grand Canyon. Tu as quand même, en fait, ils te défoncent un motel entier en balançant je sais pas combien de bastos dedans. Enfin, tout un tas de trucs comme ça. Tu as quand même la séquence quand même d'ouverture aussi. Qui est quand même pas la séquence d'ouverture au Vietnam, je reprécise, parce que la séquence d'ouverture au Vietnam qui est la Vietnam de Fontainebleau là,
c'est un des pires Vietnam qu'on ait vu,
ouais, voilà,
en tout cas dans une production entre guillemets qui se voudrait importante, mais ça a été littéralement tourné sur un terrain de golf,
voilà,
sur lequel ils ont rajouté des fougères, voilà, en pagaille cheap, avec en fait. Beaucoup de flotte sur la gueule, et ça se voit que chaque travelling ne dépasse pas les 3 mètres parce que sinon on va griller le truc. Alors, déjà, ça se voit parce que y a aucune vraie texture organique, on va dire. Mais en plus, ça se voit, je trouve, hein, parce que les comédiens donnent pas du tout l'impression d'être dans la jungle, quoi. Enfin, le premier mec à ouvrir sa gueule, la première réplique du film, elle est prononcée par un second rôle qui est le pire second rôle du monde, quoi. Et tu dis, mais c'est le gardien du golf, en fait.
Ok, les gars, je veux bien vous laisser tourner chez moi, mais je veux un rôle.
Ils sont nuls. Même les figurants qui sont censés jouer les Vietnamiens, là, les victimes de Dolph Lundgren, là, qui est en train de se faire un collier d'oreilles, en les menaçant de son flingue, même eux, ils sont nuls, quoi.
Après, c'est pas le film le mieux joué, quoi, tu vois. Mais,
mais à ce point-là, c'est fascinant. Ouais. Et du coup, je me demande dans quelle mesure ça n'a pas été un challenge pour Roland Emmerich, justement, de s'adapter à la langue anglaise. C'est-à-dire parce que, en tant que réalisateur, t'es censé entendre quand ça sonne faux. Et quand c'est pas ta langue d'origine, ta langue natale, je pense que c'est très compliqué. Et c'était un peu déjà le cas sur Moon 44. Hein. Il y a cette impression de fausseté dans les dialogues quand tu le tapes. Alors, je sais pas ce que donne la VF, du coup, d'Universal Soldier. Peut-être que ça passe mieux.
Je crois que je l'ai vu en VF à l'époque.
Mais franchement, l'introduction de la journaliste qui est censée... personnage typique, hein, qu'on va retrouver dans toutes les productions Emmerich qui suivent, en fait, qui est la nana qui vient foutre la merde entre guillemets dans l'intrigue parce qu'elle elle cherche son scoop, en fait, et elle va tomber sur beaucoup plus gros qu'elle aurait voulu, et qui du coup devient plus ou moins le référent du spectateur, au sens plus ou moins la personne normale dans un contexte complètement de SF. Il te la présente comme la meuf entre guillemets cool, quoi. Elle est en retard, elle a une clope au bec, elle est en train dans sa bagnole de se gueuler sur elle-même, etc. Et elle joue c'est comme une patate, quoi. C'est pas possible.
Oui, bah après, c'est pareil, elle a pas fait grande carrière, Ali Walker derrière. Mais en fait, non, je parlais de la scène d'ouverture d'après, en fait, c'est-à-dire vraiment la scène d'action des Universal Soldiers où tu les vois, en fait, investir le barrage.
Le barrage.
En fait, en gros, faire une descente en rappel, ça, tu te dis, oh putain, c'est. Tu vois, il y a de la cascade, il y a du truc.
Il y a du vrai physique, et aussi de ce que j'ai compris beaucoup de military porn déjà leur costume Universal Soldier, il a été designé par des gens qui travaillent vraiment pour l'armée, alors toi et moi il existe une base de données spécialisée dans les flingues, aux États-Unis, dans les flingues des films.
Mais je crois que c'est Weapon Data, enfin c'est comme Weapon Movie Data,
et je me demande si Universal Soldier fait pas partie de leur top 10, quoi.
Ah ouais.
Tellement il y a toutes les armes à feu de l'époque, le plus bel avion cargo qu'on ait vu, qui est magnifique. Hein. On a ce plan de l'avion cargo qui arrive.
C'est tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de production value à l'écran, que tu peux pas leur enlever ça. Après, le problème, c'est pour moi, à mon sens, hein, c'est la mise en scène de Roland Emmerich, c'est-à-dire que c'est vraiment, on rigolait de ça avant qu'on commence à enregistrer, mais c'est alors master shot, puis master shot, et puis en fait gros plan, et en fait. J'exagère évidemment, mais c'est vraiment t'as deux, non, y a t'as pas, deux y a grosses pas, valeurs en fait de plan en
y
fait
y a pas
à chaque
construction
fois.
Scénique, mais je pense tout simplement aussi parce qu'il a pas la scène au sens physique pour le faire. C'est beaucoup de cache-misère, c'est-à-dire que il a clairement été pompé du côté de James Cameron et de Tony Scott dans la façon notamment de comment dire de c'est une mise en scène en aplat où tous les objets dynamiques remplissent l'essentiel de l'écran. Ouais. Donc par exemple t'as l'avion cargo qui a atterri, donc tu vas avoir l'aile de l'avion cargo qui surplombe, le gros camion qui traverse et les soldats qui sont posés entre le camion et l'avion, tout ça en longue focale, et du coup tu vois presque pas le décor environnant, parce que le décor désertique environnant, c'est lui qui pourrait donner un côté cheap en fait. Là tout ce que tu vois à l'image, ça bouge et il fait ça dans les motels, il fait ça partout.
Bien sûr, hein.
Donc ça donne l'impression tout le temps qu'il y a un truc, que l'image est remplie, et en plus comme il tourne en scope, ça fait entre guillemets riche quoi.
Alors après James Cameron il fait des mouvements de caméra au milieu.
Non mais tu vois, non seulement James Cameron, ouais. Non mais je veux dire James Cameron il utilise ce type de plan comme des plans intermédiaires. Mais à côté de ça t'as un plan d'ensemble qui est juste magistral, mais aussi parce qu'il a les moyens, parce qu'il a vraiment construit le décor, etc. Et pareil pour Tony Scott, mais il utilise en fait ces techniques que ont développé pour de temps en temps avoir des plans de raccord, sauf qu'il fait tout son film avec ses plans de raccord. Ouais. Et à l'époque où Universal Soldier sort, j'entends en projection de presse, etc. Enfin, les gens le voient clairement comme un pompage éhonté de James Cameron. Quoi.
Ah, mais c'est alors
le générique d'ouverture, c'est littéralement la police de caractère de Terminator.
Oh,
dans les noms des...
Et puis la bande annonce, elle a été vendue sur la musique de Terminator 2
et Total Recall.
Ouais, donc voilà. Enfin, à un moment donné, c'est tu peux pas de Brad Fidel, quoi. Donc tu peux pas. Enfin, je veux dire, c'est de toute façon, moi, je mets ma casquette de rédacteur en chef de stéroïdes pour signaler que en fait, ça s'inscrit dans la Terminator 2 exploitation des années 90, ouais. C'est-à-dire que tu avais quelques films comme ça en fait qui sont sortis où il fallait que ça fasse penser à Terminator 2, donc tu avais effectivement Universal Soldier, tu avais Solo le guerrier d'acier avec Mario Van Peebles, enfin tu avais tous ces trucs là comme ça où en fait tu avais quelques films où ouais, c'était le mec impassible, tu vois, comment dire, le soldat, tu vois, même tu vois, alors même si le film il ressemble pas vraiment à ça, même Soldier en fait avec Kurt Russell, c'était des trucs en fait qui essayent de la SF d'action en fait que Cameron a popularisé quoi, mais comment dire, donc bon, celui-là c'est le plus évident puisqu'en plus c'est chez Carolco, c'est-à-dire le film il commence avec le fameux logo Carolco que moi j'adore en fait sur la musique de Goldsmith quoi, qui était un super logo. Moi quand j'étais gamin je me disais putain je vais voir un film avec de la thune en fait quand je vais voir ça quoi, et bon ouais effectivement, mais j'avais bien aimé, c'est-à-dire qu'en fait il faut que je fasse mon mea culpa, enfin faut que je fasse que je fasse un monde honorable. J'avais bien aimé, moi, Universal Soldier à l'époque, j'avais 16 ans, hein, tu vois. J'avais trouvé ça plutôt sympa et tout. Et en fait, c'est en le revoyant ces dernières années, parce que j'avais pas envie depuis des années, quoi. Et c'est un film de Roland Emmerich, quoi. Mais
justement, pas tout à fait. C'est là le problème.
Non, mais sans la destruction porn, si tu veux.
Là où vraiment tu retrouves Roland Emmerich, c'est dans les séquences qui se voudraient des séquences de comédie. Alors, elles sont très embarrassantes, je le reconnais. Mais par contre, c'est clairement le Emmerich d'Independence Day, ce genre de film-là, sur les personnages secondaires.
Alors, je sais pas.
Lorsqu'ils arrivent au motel et que t'as cette espèce de gros porc qui est derrière son comptoir là, qui, ouais. qui essaie de lui soutirer le maximum de pognon pour sa chambre pourrie, bon, et avec sa mère qui est juste à côté, qui dit pas un mot dans son fauteuil d'handicapé, bon, ça c'est clairement des séquences à la Emmerich. Pareil avec la séquence du restaurant qui est super.
Alors non, ça, alors Van Damme, je suis désolé, mais alors voilà,
Van Damme commande, parce qu'on on l'a pas précisé dans le pitch, mais voilà, comme du coup c'est un mec qui redécouvre son identité humaine, il a un peu des comportements d'enfant. C'est-à-dire, il est à la fois un super soldat et en même temps complètement innocent. Et donc, effectivement, il découvre la bouffe.
Ouais, alors, c'est pas répliquant hein, non plus. Hein, parce que voilà,
il découvre la bouffe et il commande assiette sur assiette.
De plats de purée, là, tu sais, s'enfile, en fait. Voilà. Et donc, en fait, forcément, ça génère une baston de barre. Enfin, je dis forcément, mais c'est juste.
Où il essaie de manger. Voilà.
Sauf que pour moi, cette scène. Si
comment
tu veux, c'est pour moi cette scène. Ouais. Si tu veux, c'est une scène à la Bud Spencer en fait. C'est-à-dire que, ou alors à la, tu vois, ce qui manque dans cette scène, c'est un singe. tu vois, ou un truc comme ça, parce qu'en fait, en gros, c'est dur et dingue. C'est pas du Emmerich pour moi, ça, cette scène. C'est un truc qui est complètement incongru en plus. C'est-à-dire que c'est vraiment une scène où tu te dis, mais qui ça fout là, tu vois.
Moi, c'est la moi, scène. C'est en fait, c'est du Emmerich parce que ce qui est mis en avant, c'est la serveuse, c'est le cuisinier qui vient avec la bonne transpiration sous les bras. En gros, tous ces clichés associés au cinéma américain qui sont, en fait, ce qui est intéressant avec Emmerich, c'est qu'en tant qu'étranger, il a souvent fait ça. Il a souvent mis en scène une image faussée que les Européens se faisaient du cinéma hollywoodien, en fait.
C'est peut-être la sienne, hein.
Comment ?
C'est peut-être la sienne.
Oui, mais c'est aussi ce qui explique, je pense, l'attrait international de films comme Independence Day et autres. C'est-à-dire que enfin, le public international avait le film américain cliché que Hollywood ne lui avait jamais livré. Independence Day, tu fais pas plus américain, made in America, alors qu'en fait, c'est du fake, c'est pas du tout authentiquement américain.
Et moi, je pense, en fait, il y a aussi une problématique du cynisme là-dedans. Hein.
Il y a peut-être, on peut appeler ça du cynisme ou de l'arrivisme, il fait feu de tout bois, le mec il a envie de faire son trou à Hollywood, mais le fait que ça se passe sur la route 66, le fait qu'il passe de motel en motel, le fait de choisir des figures qui sont entre guillemets associées à l'Amérique profonde, pourquoi est-ce qu'ils prennent cette bagnole pour s'enfuir, quoi? Ils auraient pu prendre n'importe quelle autre voiture. Il y a vraiment un côté je fais plus américain que les Américains.
Tu veux dire comme Schwarzenegger, en fait, en gros, qui, quand il se pointe, il veut impérativement, en fait, avoir sa green card, son machin, son truc, et que donc, en fait, il fait plus ricain que les ricains.
Et du coup, c'est le Emmerich qu'on va retrouver ensuite. Pour moi, Universal Soldier foire complètement, c'est que ces séquences d'action sont d'une mollesse effroyable.
Ça, c'est fou, parce qu'en fait, je me rappelais pas à ce point-là, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est très mou, quoi.
Alors que la promesse du film, encore une fois, ce sont des super soldats. C'est-à-dire que toi et moi, on l'a vécu, ça. Nous, tout ce qu'on attendait, c'était de pouvoir voir des mecs qui défoncent des murs en courant, tu vois. En gros, ce que Spriggan de Katsuhiro Otomo va nous donner des années plus tard. Mais quand je parlais tout à l'heure de dessins animés japonais,
prod, hein, comment à la prod Katsuhiro Otomo.
Oui, à la prod, ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je parlais tout à l'heure de l'époque où on découvre l'animation japonaise, c'est qu'on trouve enfin cette énergie kinétique qu'il y a dans le comic book, alors, et que le cinéma ne nous offrait pas ou trop peu, sauf justement dans des films comme Terminator 2. Et Universal Soldier se présente explicitement comme le film qui va mettre l'énergie kinétique en avant, ne serait-ce que par son pitch. Or, c'est précisément
sa bande-annonce était incroyable. Enfin,
c'est précisément ce qui manque au film, quoi. C'est pas un film burné.
Après, attends. Je t'avance, monsieur Rafik Djoumi. Voilà, il faut quand même préciser un truc, c'est qu'en fait, on est dans une époque où, en fait, parce qu'on oublie, là, on parle beaucoup de Roland Emmerich, mais on oublie quand même que c'est un film avec Van Damme et Dolph Lundgren. Donc le truc, en fait, c'est que ces deux mecs-là, ils charrient des choses.
Bah oui,
en fait,
c'est
dans leur âge
de Laurence Olivier et tout ça, d'une part.
Déjà, d'une certaine manière, mais l'autre, enfin, en tout cas, du cinéma d'action. Oui. Mais non, au-delà de ça, en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, en fait, toi, tu prends le problème à l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, moi, le gosse de 16 ans que j'étais à l'époque, en tout cas, en fait, j'étais content de voir un film qui avait un peu plus de production value que chez Mark Lester, que chez, parce que c'était ça aussi le truc, en fait. C'est-à-dire que le cinéma d'action de cette époque-là, si tu enlèves McTiernan, si tu enlèves James Cameron, si tu enlèves Catherine Bigelow, globalement, c'est des films qui sont faits par Mark Lester, Dwight Little et des mecs comme ça.
Et Andrew Davis, tu l'as cité tout à l'heure.
Andrew Davis, voilà. Donc le truc, c'est que c'est des gars, en fait, qui sont quand même un peu en dessous. Hein, voilà. Mais le truc, c'est que surtout, tu vois, je sais pas, les Sheldon Lettich, enfin, encore une fois, on peut en citer des tonnes, des mecs comme ça, quoi. Et en gros, pour Van Damme et pour Lundgren, d'une certaine manière, c'était une manière, en fait, de augmenter leur cinéma, en fait, de se retrouver dans un film comme Universal Soldier. Donc, du coup, et là-dessus, Emmerich, enfin, il faut aussi lui reconnaître ça, parce qu'encore une fois, il le dit d'ailleurs explicitement, quand on lui a dit, vous allez faire le film avec Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren, en fait, ce que la Carol Cole lui a proposé, Dolph Lundgren, il savait qui c'était. Rocky IV oblige, j'imagine. Et puis, je pense que c'est un grand fan, parce que je pense, en fait, que la carrière de Roland Emmerich, on le dit pas assez, s'inspire beaucoup des maîtres de l'univers, quoi, avec Dolph Lundgren, quoi. Mais si, c'est du Roland Emmerich avant l'heure, les maîtres de l'univers, voyons. Tu vois. Oui, parce que t'as pas vu les maîtres de l'univers. Revois-le, ça te plairait. Bref. Ouais. Et un jour, il faudra que je fasse un podcast stéroïde sur les maîtres de l'univers. Mais bon, je pense que je vais appeler Julien pour ça. Mais le truc, c'est que, donc, en fait, il connaissait Dolph Lundgren, mais en fait, il savait pas du tout qui était Van Damme. Et en gros, apparemment, ça déjà, c'est partir sur un mauvais pied, parce que ce qui s'est passé, c'est que Van Damme, en gros, l'a très mal pris quand il a appris ça, et il a dit moi, j'annule le film, je le fais plus, qu'il aille se faire foutre, etc., etc. Et finalement, ils l'ont rattrapé parce que Van Damme, en fait, il joue un enfant dans le film, mais je pense que c'est un peu un enfant quand même aussi, quoi. Et en gros, ils l'ont rattrapé, ils lui ont dit non, mais on va être des professionnels, on va peut-être faire le film maintenant, tu vois, Jean-Claude, quoi. Et surtout. En fait, Devlin et Emmerich précisent qu'ils sont allés du coup analyser tous les films de Van Damme en disant mais et alors ce qui est génial c'est de la façon dont ils le présentent, ils disent il y a de la suite dans les idées en fait si tu veux dans les films de Van Damme. Par exemple, si tu veux, ils montent son cul. Donc en gros, ils ont fait. En fait, ils ont écrit des scènes autour du fait que Van Damme se balade à poil, ce qui est le cas dans le film, évidemment, tu vois, où il monte son gros cul, tu vois, et c'est...
Pas
et
seulement qu'il se balade à poil,
avec
attention.
Des scènes de merde, mais alors, tu vois, de...
Bah, parce c'est pas seulement qu'il se balade à poil, c'est qu'il se balade à poil sous les yeux de femmes admiratives.
C'est Van Damme, tu vois, donc voilà, quoi. Et apparemment, donc, la belle anecdote du truc, c'est qu'en gros... Quand Van Damme tournait les scènes où il montrait ses fesses, en fait, il se tournait avant que ça commence à tourner, il se disait, mais c'est bien, est-ce que mon cul est bien in focus, tu vois, est-ce que c'est bon, est-ce que le point est fait sur mon cul, quoi. Et t'as Roland Emmerich qui plaisante là-dessus, qui dit, oui, Van Damme, t'inquiète, on est des professionnels, le point est fait sur ton cul, quoi. Alors c'est vrai que, là, encore une fois, si tu fais un comparatif avec tous les autres films de Van Damme, hein, les kickboxers, les machins comme ça, etc., c'est vrai que son cul est très, très bien mis en valeur, en fait.
Ah, déjà,
avec un très beau plan scope, tu vois,
déjà, c'est Roland Emmerich qui a jamais fait de mystère sur sa sexualité, on va dire.
Je pense que tu vois, en fait, tu sais, il a un certain dédain pour Van Damme. Emmerich, ça se voit.
Certes, il a un dédain pour Van Damme, il a peut-être moins un dédain pour les fesses de Van Damme, si tu veux. Il met un certain soin à les filmer, et il est même un petit peu trop malicieux parce que donc il y a cette séquence où elle doit lui retirer une puce sur son corps, mais elle sait pas où est la puce et donc elle doit du coup palper le personnage de Van Damme. Donc, ce qui donne lieu à
un moment d'érotisme
torride, parce qu'elle sait, il demande de retrouver quelque chose qui est dur. Et donc, évidemment, dans le corps de Van Damme, tout est dur.
mais Rafik,
le truc, c'est qu'en fait, elle est derrière lui, elle se baisse parce que cette puce est dans sa cuisse, ouais. Et elle sait pas quoi en faire. Et là, t'as Van Damme qui, t'as un plan, t'as un effet de montage où il y a la tête de Van Damme qui apparaît devant elle parce qu'en fait il s'est complètement penché pour lui parler entre ses jambes, quoi. Mais si tu réfléchis, c'est-à-dire on n'a pas de plan large de la séquence, si tu réfléchis, il est littéralement en train de lui montrer son trou de balle à ce moment-là, quoi, si tu veux. Donc bon,
Rafik, tu fais vraiment l'exégèse des gros bras, c'est bien.
Exactement.
Vas-y.
Et donc, non, mais voilà, mais c'est, pour moi ça rend la scène très odorante, en fait, si tu veux. c'est inattendu.
Il y a Alain qui est mort de rire de l'autre côté.
Donc, et ça, je pense qu'effectivement, les penchants d'Emmerich sont assez importants sur
moi. Je pense qu'il se fout de sa gueule dans ces scènes-là. Hein, mais honnêtement, à mon sens,
personnage, certes, mais là, on parle de physique, on parle de.
Il y a un truc qui est quand même problématique avec Roland Emmerich, parce qu'il faut quand même qu'on le dise. Enfin, moi, je suis désolé, c'est qu'en fait, il fait vraiment les films les plus cons de la planète. Faut le dire, tu vois. Et le truc, si tu veux, c'est qu'il y a un moment donné, la question, c'est quand t'as un mec comme Van Damme, c'est pas difficile. Parce qu'il faut être honnête que c'est quelqu'un qui sait quand même beaucoup. Moi, j'adore Jean-Claude Van Damme, encore une fois, pour plein de raisons, tu vois. Mais c'est un mec qui a un sens du ridicule assez limité, on va dire, si tu veux. Donc, en fait, c'est assez souvent, si tu veux, ça transparaît dans ses films, et je parle même pas de ses apparitions à la télé, quoi. Donc là, je pense qu'en fait, si tu veux, la moquerie, elle est très, très facile, en fait, si tu veux, avec Jean-Claude Van Damme, et le film joue avec ça, quoi. Et je te dis, encore une fois, je pense que... pour moi, Roland Emmerich, et pour l'avoir rencontré, même si je l'ai pas, j'ai pas fait une masterclass avec lui, je considère que c'est vraiment le cynisme à l'état pur, en fait. C'est-à-dire que vraiment, je l'ai toujours vu comme ça, et ça m'a, et en fait, le fait de le rencontrer, ça m'a conforté dans ma position. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec son cinéma. Mais, en fait, donc, t'as ce côté-là, en fait, pas sur Van Damme, je pense qu'il a un côté vraiment, il a un vrai dédain pour le mec. Et, à côté de ça, t'as finalement la connerie inhérente à Roland Emmerich de base, en fait. C'est-à-dire que t'as des scènes quand même dans le film Et je pense pas que ce soit des scènes humoristiques, hein. C'est vraiment des scènes qui s'enchaînent en plus. Ouais. C'est le moment en fait où t'as tous les autres Universal Soldier, parce que bon, faut le dire, hein, t'as Lundgren, Van Damme, mais t'as Ralph Möller derrière, t'as les mecs comme ça et tout, quoi. Les gros musculeux, Ralph Möller, vous l'avez vu dans Gladiator, tout ça. Enfin, c'est un des grands copains d'Arnold. Et en gros, ces mecs-là, ils, en fait, si tu veux, t'as les scientifiques qui essayent de se débarrasser d'eux. Et c'est les, alors scientifiques sont pas des hommes de terrain, toute évidence, mais quand même.
C'est des scientifiques à la Roland Emmerich, ça veut dire
qu'ils sont cons comme leurs pieds.
Ils sont, mais avant même ce à quoi tu penses, enfin, ne serait-ce que le début du film où tu les vois à l'action, en train derrière leur console. Enfin, les scientifiques à la Roland Emmerich, tu vois bien que dès que les mecs ouvrent la bouche, tu dis, mais il a jamais fait une université de sa vie.
C'est-à-dire qu'ils vendent pas le pitch du film parce qu'il parle comme un vendeur de kebab, quoi.
Si tu veux.
Ouais, non, mais le pitch, il est fou parce qu'en fait, quand tu réfléchis, tu dis, mais pourquoi vous êtes allé chercher des soldats il y a 25 ans?
Oui.
Comment est-ce que les corps, ils sont gardés?
Parce qu'il aura fallu 25 ans.
Parce que t'as beau les garder
pour
en
perfectionner ses corps.
Ouais, non, mais Stéphane. Oui, d'accord, ok. Non, mais tu vois, c'est un truc.
L'homme qui valait 3 milliards.
Ouais, voilà. La science de l'homme qui valait 3 milliards, quoi. Tu vois. Donc, on a mis 3 milliards, donc c'est bon. Ça marche, la science, elle fonctionne, quoi. Mais là, c'est pareil. Tu vois, donc tu te dis, ils vendent pas le truc. Mais alors, le moment où ils doivent essayer de se débarrasser, là, t'as 3-4 scènes qui s'enchaînent. C'est Bibi et le Coyote.
Ouais, c'est clair.
Tu vois, ils sont cons comme leurs pieds.
Ils sont vraiment. Le coup de la grenade, c'est vraiment.
Le climax, c'est quand il demande à Ralph Möller de tenir la grenade, tu vois, et en fait de la faire sauter. Le mec, il pense qu'il va s'échapper. En fait, il est pris. Le mec, en fait, il lui tient la main. Mais c'est ridicule. Bref. Donc, tu parlais de Laurence Olivier.
Oui.
Mais en fait, il y a quand même des grandes scènes aussi où Dolph Lundgren essaye d'être,
Moi, je trouve que c'est le pire encore. Parce qu'en fait.
Bah, évidemment. Enfin, c'est-à-dire que dans un film comme ça, t'essayes pas ça.
Que, encore une fois, le film est pas fidèle à la promesse de son pitch. On l'a dit. Donc, c'est censé être des super soldats, mais finalement, ils font pas grand chose de super. Alors, de temps en temps, ils pètent un mur. Mais je veux dire, on les voit pas courir à 200 à l'heure. On les voit pas, traverser de la tôle. Des trucs qui, moi, m'auraient vraiment fait kiffer, quoi.
Non, parce que la scène d'action la plus spectaculaire, qui est la scène de la poursuite
dans le canyon.
Dans le canyon, en fait, en gros, bah, t'as la même scène que dans Terminator 2, où t'as la camion qui se retourne, t'as Van Damme qui monte dessus, qui tire à travers le pare-brise. Bon, voilà, ça va pas très loin, quoi.
Oui, c'est pas des super-héros. Enfin,
la scène en soi, en cascade, parce que c'est Vic Armstrong qui a fait toute la seconde équipe et tout ça, etc., etc., ça fonctionne, c'est propre, tu vois. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est très américain de base.
Ils font pas des trucs super. Le seul truc super qu'ils font au début, mais en gros, c'est des vrais cascadeurs qui l'ont fait, c'est la descente, en rappel du barrage, qui est effectivement très impressionnante. Mais le truc, c'est que, par contre, ils se font chier à te les présenter comme des, entre guillemets, des robots, donc ils demandent clairement aux comédiens de jouer. C'est nul, quoi. Enfin, ils sont là, le regard complètement fixe, oui, je vous écoute, j'attends les ordres, etc. Et sitôt qu'ils ont eu un souvenir de leur ancienne vie, tout d'un coup, paf, il switch en mode et Lundgren, c'est le pire parce que
pareil, tu veux parler de mise en scène, Raph. Moi, je suis désolé, mais le flashback séquentiel du coup de latte dans le flingue, si tu veux, qui est le truc qui revient et c'est le seul truc qu'il fait pour vraiment amorcer le flashback de l'époque et le truc. Tu te dis non, mais Roland.
Mais dans toutes les séquences d'introduction des deux, tu vois Lundgren qui donne des regards en coin, la caméra qui fait un travelling sur lui où il est pas content et tout. Tu fais attendez, les gars, il est censé être programmé à ce moment-là. Il n'est pas du tout censé être le personnage que vous nous avez présenté dans la séquence d'ouverture. Donc il n'y a aucune logique en fait dans la façon avec laquelle ils sont des machines ou ils redeviennent des humains.
Oui, parce qu'un coup il va tirer une balle dans la tête du journaliste en fait qui accompagne la nana. Et puis 10 minutes après il suit les ordres quand même sans problème. Tu vois, tu te dis mais vous avez géré ça.
C'est pas quoi.
Ah ouais, mais on lui a mis un shot. Ah bon, d'accord. Tu vois, scientifique.
Mais on les fait jouer robots, ce qui donne du coup en plus, moi je trouve aussi sur Van Damme une démarche particulièrement embarrassante quand il essaie de marcher à la Robocop dans le motel, quoi.
Tu veux dire qu'il a pas travaillé sa démarche. C'est ça que tu veux dire, quoi. Non, mais c'est ouais.
Non, mais il y a pas de direction à ce niveau-là, quoi. Ils ont pas là-dessus. Ils ont pas tenu le truc, le lore, on va dire, enfin, tu vois, la logique de l'univers dans lequel le film est censé se passer.
Tu fais bien parler de lore parce qu'il y a quand même, il y a 4 films.
Dean Devlin,
tu vois, et une série télé et tout. Enfin, il y avait deux téléfilms et tout.
Je dis ça parce que Dean Devlin, c'est quand même censé être le comic book fan, on va dire, du duo à l'époque. C'est-à-dire celui qui amène toute cette culture comics dans les films de Roland Emmerich. Non, mais ça sous-entend que le type, il sait qu'il faut tenir
Rafik,
une cohérence.
Je voulais faire ce podcast pour que tu finisses par tu vois, au fil en fait de la conversation, te rendre compte en fait que oui, effectivement, Dean Levin, c'est pas un très bon scénariste et que en fait, Roland Emmerich, c'est pas un très bon réal, c'est tout. Mais en fait,
d'où la question, comment ont-ils pu réussir quelque chose d'aussi merveilleux que Stargate ou Independence Day quelques années après? Mais ça, on n'y répondra jamais.
Non, mais il y a des choses que tu peux pas dire en fait au micro, Rafik. Tu vois, tu peux pas dire que Stargate et Independence Day, c'est des bons films, c'est pas possible.
Non, quoi. C'est des films merveilleux.
Merveilleux, d'accord. Non, alors il y a donc bon là, on a quand même fait un gros tour en fait de la question, mais peut-être préciser deux trois trucs. Alors il y a une scène,
musique de merde, on n'en a pas parlé,
Christopher Franck,
un ancien de Tangerine Dream,
voilà, mais qui pour le coup est vraiment dans la nappe, hein, tu vois, enfin je sais pas vraiment,
mais déjà que je considère pas que Brad Fidel c'est grandiose, là on est carrément,
non mais Brad Fidel il a pour lui d'avoir créé un thème absolument iconique, voilà, donc tu peux pas lui enlever ça, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi sur True Lies et ce genre de choses, mais par exemple sur le thème de Terminator
mais c'est pour dire qu'il était bien en dessous encore sur,
ouais, puis même au-delà de ça, même en dessous de, bah, je sais que t'écoutes pas forcément Tangerine Dream, mais moi c'est le cas, tu vois, en dessous, Christopher Franck, ce qu'il a fait, c'est en dessous de Tangerine Dream, vraiment. Hein, sur, enfin, les fans de Tangerine Dream n'allaient pas forcément écouter la musique de
Universal Soldier
pour espérer avoir en fait un.
Retrouver le frisson de Sorcerer.
De Sorcerer, de Thief, enfin tout ça, quoi, tu vois. Mais le truc, en fait, c'est que. Donc, oui, il y a une musique. Mais en fait, c'est surtout. Parce que le film, il a au moins cet avantage, en fait, pour lui, d'être, on va dire, un film de bourrin plus, tu vois, on va dire, de cette époque-là. C'est clairement un coup, hein, je pense, pour la Carolco. C'est-à-dire que les mecs se sont dit, on a 23 millions, on a Van Damme, on a Dolph Lundgren.
Et un coup qui leur a rapporté, puisque je crois qu'il a fait 100
patates dans le monde entier. Et quand je dis c'est un coup, c'est parce qu'il y avait ce fameux truc qui est un petit peu connu, parce que je pense que si vous tapez sur internet, vous allez tomber sur la scène. C'est que peu de temps avant la sortie du film, t'as Van Damme et Lundgren en fait qui étaient à Cannes dans une montée des marches en fait, et qui ont en fait commencé à se foutre sur la gueule à l'écran.
Les City Stunt.
Voilà. Sauf que en fait, ils ont mis des années à révéler que c'en était une. Au cas où tu l'avais pas.
Personne ne s'en saurait douter.
Non, mais c'est surtout. En fait, les mecs se foutent sur la gueule et comme ils savent pas vraiment jouer, tu vois. Tu sais, en fait, c'est vraiment deux gamins dans un truc de bac à sable, quoi. Donc, t'as vraiment, en fait, tout un truc autour de ça. Et, et donc, ce que je voulais dire, c'est que t'as, à part ça, t'as aussi une espèce de comme le film est très efficace, en fait, ça se termine assez sur un coup de, comment t'appelles ça, une espèce de grosse baston, encore une fois, dans la logique d'aller chercher ce que Van Damme sait faire, donc c'est-à-dire il n'y a pas de grand écart dans le film, mais bon, ils auraient pu le caser quelque part, je pense, tu vois. Mais en fait, t'as Van Damme qui fait ses fameux, roundhouse kicks, les trucs comme ça, etc., sur Dolph Lundgren, qui le termine de façon absolument, enfin, dans une, je pense qu'en fait ils ont arraché une page d'un film non fait de Joel Silver et ils l'ont mis là-dedans parce que en gros le mec il termine dans une boisseuse batteuse, tu vois, donc en fait pour être sûr qu'il revient pas, quoi, mais bon il revient quand même dans les Universal Soldier qui ont été faits les années après, quoi. Et t'avais une scène alternative, de fin alternative en fait, qui est sur tous les Blu-ray, parce que en fait le film existe en Blu-ray et en 4K, parce que bref, enfin c'est quand même Universal Soldier, fallait le sortir en 4K.
Et
je l'ai acheté pour ce
film là,
voilà, tu sais, je le dis pas,
tu l'as acheté,
ça va, tu vois, faut pas déconner, tu vois. En fait il aurait été à 25 balles, j'aurais fait non, mais à 10 balles je me suis dit bon, je peux le revoir en 4K, quoi. Toi et moi, nous sommes des grands professionnels, il faut le préciser, Rafik, parce qu'on a revu le film donc pour cet épisode et on a failli l'arrêter tous les deux parce qu'on n'en pouvait plus, quoi. Et on est allé jusqu'au bout. On l'a vu en entier. Alors moi, je me suis tapé tous les bonus et je me suis tapé donc la fin alternative qui est absolument. Mais alors, faut la voir, hein, parce qu'elle est sur le bois. Toi, tu ne l'as pas vu, hein, Fix. C'est là où je sais que tu n'es pas un grand fan de Roland Emmerich.
Universal Soldier spécifiquement.
Voilà, tu vois. Et en gros, si tu veux, dans cette scène, il refait. C'est-à-dire, en fait, t'as le personnage de Luc Devereaux, c'est dans la scène finale, en fait, d'action. En fait, tu te rends compte que, dans leur version de cette scène finale, les personnages, parce qu'ils retrouvent ses parents dans la scène finale, tu vois, qui le pensaient mort depuis 25 ans, bah, en fait, c'est des acteurs qui jouent un rôle, c'est un piège, en fait, pour l'attraper. Et en fait, une fois qu'il a buté Andrew Scott, les mecs se servent devant là, mais ils le butent, et en fait, t'as une scène, et littéralement, il refait le plan de Platoon. Et là, tu te dis, mais Roland Emmerich, non, mais ça va pas. Tu vois, enfin, faut calme-toi, Roland Emmerich. Tu vois, non, c'est pas possible, quoi.
J'aime l'Amérique.
Mais c'est surtout le mec qui pompe tout, quoi, à tire la rigueur, tu vois. Donc là, il refait la scène. Et en plus, Van Damme ne meurt même pas vraiment dans cette scène, puisqu'en fait, toute l'idée de la fin, c'est qu'il serait mort de sa belle mort, qu'il a pas accepté, en fait, le traitement Universal Soldier, tu vois, qu'on lui laisse. Voilà. Donc en fait, ça a été coupé.
Ça a empêché toute exploitation ultérieure à une époque où c'était quand même.
C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est-à-dire qu'il y a deux choses par rapport à ça, c'est que effectivement, tu as le personnage qui mourait, mais bon, apparemment ils ont quand même réussi à retrouver un moyen de les faire revenir, tu vois, quoi qu'il arrive. Enfin, c'est-à-dire que comment il s'appelle, Dolph Lundgren est dans Universal Soldier 3 et 4, je crois. J'ai pas vu le 4, il paraît que c'est bien, mais je l'ai pas vu. Il faudrait que je le regarde, ça manque à ma culture de rédacteur en chef de stéroïdes, mais c'est surtout ce qui est très bizarre, c'est que tu te dis mais c'est quoi cette scène, c'est quoi ce truc en fait tout autour de ça, si tu veux, alors qu'en fait vous faites un Van Damme et un Dolph Lundgren, et encore une fois ce que c'était censé être à l'époque, hein. Tu vois, c'est très très bizarre, quoi. Donc c'est à voir.
Précision, parce que je pense que tu n'es même pas au courant, mais Universal Soldiers m'a valu ma première intervention télé. À l'époque, où j'étais bleu bite au cinéphage, où j'avais 22 ans, j'étais beau comme un dieu. Et en fait, je m'occupais de la rubrique jeux vidéo du cinéphage. Et donc, j'étais invité pour parler des rapports entre cinéma et jeux vidéo. Et la question, c'était, est-ce qu'on peut voir l'influence du jeu vidéo dans les films? Et je citais explicitement Universal Soldier.
Ah, c'était pas pour Universal Soldier.
Non, une bonne partie de mon intervention tournait autour d'Universal Soldier, qui à l'époque venait de sortir en salle, et qui était un film littéralement chapitré comme une succession de niveaux, en fait, avec la confrontation au boss final dans la dernière séquence. Mais on parlait tout à l'heure de la première apparition des Unisol, comme ils les appellent. C'est pratiquement un niveau qu'on retrouve dans GoldenEye, celui du barrage et tout ça. Enfin bref, donc il y avait il y a une non progression en fait dans le film qui imite un peu les jeux de plateforme de qui sortaient à l'époque, quoi.
Et inversement, en fait, je pense que c'est pas impossible que c'est servi de référence aussi pour certains développeurs à cette époque.
Exactement, ouais.
Derrière, donc en fait, je pense que c'est
influence croisée.
Voilà. Ouais. Roland Emmerich, à mon avis, il a jamais joué à un jeu vidéo de sa vie, tu vois, à l'époque, en tout cas, il n'avait pas dû foutre une pièce dans une machine d'arcade, donc voilà, quoi. De toute façon, on sait pas ce qu'il fait, Roland Emmerich, tu vois, on sait pas où il trouve son inspiration, quoi. Mais voilà, est-ce qu'on a bouclé l'affaire, là, Rafik? Est-ce que Capture Mag, de manière générale, a parlé de Roland Emmerich dans son ensemble avec ce film?
Jamais. Dans ce Capture Mag, aura parlé de 2012 et de 10 000, là, oui, on aura vraiment fait le tour de la question du cinéma d'action populaire des années 2000.
Écoute, moi, je te conseille, en fait, de monter un site dissident qui s'appellerait Rapture Mag ou un truc comme ça, tu vois, et tu vas aller parler de, tu vas faire,
faire
le
que du Roland,
tu vois, dans le multiverse, tu vois, ok, où ça sera que Roland Emmerich et il y aura 12 heures de Roland Emmerich.
Parce que j'ai des théories intéressantes sur pourquoi ces films sont aussi jouissifs, en fait. Et ça a à voir, justement, on en a parlé tout à l'heure.
Moi, j'ai une théorie, en fait.
Ça a beaucoup à voir avec le sexe.
Ouais. Mais moi, je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait que t'es un gros déviant, Rafik, et c'est tout.
Les films les vrais bons films de Roland Emmerich,
je pensais que j'allais faire une analyse de Rafik Djoumi, j'ai fait une analyse de Rafik Djoumi, en fait.
Vraiment. Les vrais bons films de Roland Emmerich, c'est des films de coït, en fait. Et le problème de Universal Soldier, c'est que c'est un film frigide. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'il y a de la glace du début à la fin, mais c'est un film dans lequel il n'y a aucune progression dans l'excitation, dans le... Parce qu'en fait, le truc avec Emmerich dans les films suivants, c'est qu'il te promet les choses. C'est-à-dire, d'emblée, t'es venu voir un truc et pendant une heure, il va te dire « Ça vient, je mets les trucs en place. Tu les vois se me construire les uns les autres, etc. » Et la première heure d'Independence Day, c'est en fait c'est des préliminaires sexuels, littéralement, quoi. On te caresse, on te chatouille, on passe par là, jusqu'à la grosse explosion qui arrive au bout d'une heure, qui est qui est la pénétration, le coït, quoi. Là, on est rentré dans le feu de l'action. Et ça, cette structure-là, qu'il a respectée à la mort sur justement un film comme 2012, par exemple, bah, elle n'est pas dans Universal Soldier. Ce côté jeu de plateforme, c'est vraiment c'est du missionnaire du début à la fin, quoi.
Est-ce que je peux préciser un truc, Rafik? Ouais. Est-ce que tu m'as rendu Roland Emmerich encore plus dégueulasse qu'il ne l'est, en fait, avec cette espèce de théorie, là, tu vois, que tu te gardes pour toi et qu'on n'utilisera jamais plus. D'ailleurs, Alain Mercier, tu la coupes. Voilà. Non, mais attends, c'est... Stop. je pense qu'il faut que ce podcast s'arrête.
Revois Independence Day et pense sexe.
Je ne reverrai pas Independence Day. Tu vois, je ne penserai pas sexe, certainement pas en regardant Independence Day. Merci Rafik.
Voilà. Merci, Steph.
Je pense qu'on peut s'arrêter là parce que voilà, je pense qu'on c'est devenu n'importe quoi ce podcast, quoi. Merci à la technique. Merci à vous qui avez subi ce podcast parce que en fait, on parle quand même d'un film qu'on n'aime pas. Faut le dire, hein, tu vois.
On essaie de faire l'exégèse au moins.
On a essayé de faire une exégèse. Il fallait quand même parler parce que c'est le premier podcast qu'on fait sur Van Damme. C'est vrai qu'en fait, moi, j'en avais pas fait jusque-là parce que j'essayais de me dire qu'on allait faire une vidéo qu'on finira par faire un jour, hein, à un moment donné, sur Van Damme, quoi. Mais je me disais, j'aime bien faire une vidéo d'abord sur un des gros acteurs du cinéma d'action, puis ensuite, en fait, on décline en podcast les films un peu moins dont on n'a pas parlé dans la vidéo, quoi. Mais là, c'est vrai qu'on s'est dit, bon, en fait, essayons de joindre nos amours respectifs, pour Roland Emmerich, et force est de constater que c'est n'importe quoi. Hein, on a fait n'importe quoi avec ce podcast et que je pense qu'il faut vraiment que ça s'arrête maintenant. Donc, merci à vous.
Merci.
Vous pouvez nous suivre sur notre nouveau site capturemag.fr. Hein, on a changé voilà.
Merci Clémence.
Ouais, merci Clémence pour le site. Merci à vous tous qui nous suivez, qui nous soutenez sur Tipeee, sur Patreon, sur KissKissBankBank, quoi. Et puis, on l'avait dit, hein, qu'on allait pas refaire un podcast avec un aussi bon film que Les Anges de la Nuit. Donc, dont acte. Voilà. Merci.
Merci.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.